BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir Jean-Pierre Raffarin.
Bonsoir Edwige Chevriot, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à avoir avec vous, même si ce soir on est dans une situation un petit peu complexe parce qu'il n'y a
brumeuse.
Pas de certitude. Brumeuse, si vous voulez, que ça soit tant aux États-Unis, évidemment, avec les élections des midterms. On sait que Joe Biden doit intervenir ce soir. Et puis, il y a de la dernière information de ce soir, ce qui se passe en Russie, ou du moins ce qui se passe à la frontière, évidemment, avec l'Ukraine, avec le retrait des forces russes annoncé par le ministre de la Défense de Kherson et de sa région, mais du côté de la présidence ukrainienne, aucune confirmation. Ils disent on ne voit aucun mouvement. Ce que ça veut dire, malgré tout, c'est qu'il y a quand même une progression des forces ukrainiennes. Est-ce que ça peut être un camouflet pour Vladimir Poutine ? Surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune issue à ce conflit.
Oui, c'est en effet, moi, ce qui me frappe le plus et ce qui m'inquiète, y compris dans l'information de ce soir, parce que j'entends aucune puissance occidentale, personne ne parlait de cette situation. Est-ce que c'est le début d'un retrait progressif, d'un changement de cap de la Russie, le début d'une possibilité d'envisager des négociations? Au fond, ce qui compte aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu. Et on a l'air de penser que finalement, cette guerre doit se dérouler jusqu'au bout. Mais c'est quand le bout ? Non seulement le peuple, aujourd'hui, le peuple ukrainien vit une tragédie, mais l'Europe est la deuxième victime. L'Europe est quand même paralysée par cette... C'est la crise de l'énergie, c'est la crise de l'inflation. L'Ukraine ajoute des crises aux crises. On a même une certaine forme de crise de la défense. On voit bien que, y compris le couple franco-allemand, est abîmé. Nous voyons bien que nous sommes détruits en partie par cette guerre. Donc il faut le cessez-le-feu. Et on ne voit pas de mobilisation pour le cessez-le-feu. On ne voit pas de mobilisation pour la négociation. Tout le monde a l'air d'accepter l'idée que cette guerre doit durer. Mais nous en sommes aussi victimes. Bien sûr, je ne nous mets pas au même niveau que le peuple ukrainien qui vit une tragédie quotidienne.
Et russe, mais, le peuple russe aussi.
Mais le projet européen, il est complètement aujourd'hui fragilisé. Qu'est-ce que veut dire l'Europe de la défense quand les peuples ont peur et qu'ils appellent l'OTAN ? Il y a 2 ans, le président de la République disait « l'OTAN est en mort cérébrale » et aujourd'hui, tout le monde veut être dans l'OTAN. Et on voit bien que l'Europe est très fragilisée par ça. L'Afrique est menacée par les crises d'inflation auxquelles s'ajoute l'ensemble de
la difficulté
d'énergie. Donc, au fond, on voit bien que le cessez-le-feu de l'Ukraine, c'est vraiment la priorité des priorités. Au lieu de prendre cet événement-là, ce retrait éventuel, comme une circonstance à utiliser, je vois que tout le monde reste spectateur, ce qui est inquiétant.
Oui, mais comment vous expliquez ça ? Vous êtes très proche, c'est un secret pour personne, très proche du président Macron. Vous observez un peu les... Alors, il est vrai que Joe Biden, il avait une élection, on attend l'issue. Après, elle est plutôt bonne pour lui. En tous les cas, il n'y a pas de vague rouge qui vient balayer Joe Biden. Mais du côté des Allemands, on n'entend pas grand-chose. Comment vous expliquez ça ?
J'explique ça parce qu'il y a un calendrier international extraordinairement tendu, avec des crises qui s'ajoutent partout. On a quand même une crise de fond qui est la tension sino-américaine qui, aujourd'hui, est l'élément qui gouverne l'organisation internationale. On voit bien qu'on a la COP 27 aujourd'hui en Égypte, donc l'actualité internationale est extraordinairement forte, mais il n'empêche que je regrette quand même ce silence des uns et des autres aujourd'hui, et surtout le fait que le cessez-le-feu n'apparaisse pas comme la priorité. Tout le monde l'instant, il faut aller que cette guerre a jusqu'au bout. Mais on en a un qui a, parmi les belligérants, qui a l'arme nucléaire. Donc, tant que l'arme nucléaire est une menace, la guerre peut durer et durer et durer encore. Et là, on voit le projet européen qui s'abîme et on risque de sortir de l'histoire, le projet européen devenant complètement caduque dans une Europe qui est de plus en plus divisée.
Oui, l'Europe, c'est impressionnant de voir effectivement comment ce couple franco-allemand est complètement en train, même si, encore tout à l'heure, le président français a essayé de dire que l'essentiel, c'était le couple franco-allemand, mais on voit bien qu'il est complètement en train de se diviser, tant sur le front géopolitique que sur le front de la défense, qui est presque encore plus grave, que sur le front économique.
Je pense que c'est très important. C'est notre seule chance. parce que nous sommes pris en tenaille entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis nous possèdent d'une certaine manière par l'extraterritorialité de leurs lois et la Chine par l'importance de son marché. Donc on est pris en tenaille. Tous les deux nous font un chantage à l'exclusivité. On a besoin des deux. Et donc on est dans une grande difficulté et la seule façon de résister, c'est d'avoir un couple franco-allemand qui exprime quelque chose qui ressemble un rapport de force continental. Quand la France et l'Allemagne sont ensemble, on pèse grosso modo...
Ouais, mais là, reconnaissez qu'on est sur des positions totalement différentes.
Là, je reconnais qu'il y a des positions allemandes aujourd'hui extrêmement préoccupantes. Et je considère, pour vous dire quelque chose d'assez grave, mais je considère personnellement, ce n'est qu'une voix personnelle, mais on ne peut pas laisser les Allemands récupérer la suprématie industrielle qu'ils sont en train de perdre sur le plan militaire. On ne peut pas laisser...
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que les 100 milliards qu'ils doivent investir en défense, ils doivent l'investir dans un projet européen, avec une cohérence européenne. On ne peut pas avoir une armée allemande qui devienne la première armée indépendante de l'Union européenne, de mon point de vue. C'est une leçon de l'histoire que nous devons tous tenir. Il est clair que si l'Allemagne se réarme, elle doit le faire dans le cadre d'un projet européen. Et c'est pour ça que je dis que le projet européen, il est aujourd'hui extrêmement menacé, y compris par cette guerre en Ukraine. Quand les peuples ont peur de la guerre, ils appellent les Américains en Europe. Et donc aujourd'hui, il nous faut un projet européen, il nous faut de l'indépendance, il nous faut de la souveraineté. Tout le monde le dit, mais il n'y a pas de souveraineté si l'Allemagne et la France sont divisées. Déjà, les Anglais sont partis, on a été affaiblis, oui. Il nous faut nous rassembler. Donc ça, j'apprécie que le président ait reçu le chancelier allemand, j'apprécie qu'il exprime cette volonté, mais je regarde comme vous les faits, et les faits ne vont pas dans la bonne direction en ce moment.
Vous utilisez un mot quand même très fort, en disant que les préoccupations allemandes, ce qui se passe en Allemagne, ce sont des préoccupations très forte pour les Français et pour l'Europe.
Pour l'Europe, pour notre projet européen, il est clair que moi j'étais tout à fait partisan de ces orientations du président disant que la défense européenne devait être un projet important. Quand les Allemands achètent américains et quand tous les peuples ont peur de la guerre et pensent américains, je me dis où est le projet européen ? Or, il n'y a pas aujourd'hui une action de l'Europe sur le plan historique. Si on n'est pas ensemble avec les Allemands.
Oui, c'est mais les Allemands, force. Ils ne sont pas en phase avec nous. D'accord.
Ce que je note, c'est quand même que le chancelier Scholz, pour le moment, il navigue un peu à vue dans sa nouvelle coalition qui est difficile. Ce qui est assez incroyable aujourd'hui, c'est que tous les chefs d'État ont des problèmes avec leur assemblée. On le voit avec M. Biden, on le voit avec la France, on le voit avec l'Allemagne, on le voit à peu près partout. Il y a des problèmes aujourd'hui de gouvernance partout dans le monde. Mais il est clair aujourd'hui que nous avons besoin d'un rapport de force mondial dans ce monde des grands empires, et dans ce rapport de force mondial, l'Europe n'a pas d'autre chance que de faire exister un rapport franco-allemand puissant.
Oui, et parce que sur ce que vous dites, il y a aussi cette guerre commerciale, où on voit bien que les Français sont... Enfin, l'Europe, les Français notamment, on est coincé justement entre cet étau américain et cet étau chinois.
Absolument. Nous, on a vraiment, aujourd'hui, nos entreprises, pour être mondiales, elles ont besoin d'être sur les deux marchés. L'Oréal, Sanofi, Schneider, tous ces grands groupes, ils sont mondiaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont forts en Chine et forts aux États-Unis. Et donc, les États-Unis ne peuvent pas nous dire, faites la guerre à la Chine. Mmh. Donc, nous, on a besoin d'un équilibre. Bien sûr qu'on est proche des Américains. On a la démocratie en commun. Entre parenthèses, je suis admiratif de taux de participation des Américains. On les décrit sur beaucoup de choses.
C'est quand même
un facteur qui génère de l'admiration. Nous, la démocratie, quand on n'est pas content, on s'abstient. Les Américains, quand ils ne sont pas contents, ils vont voter. C'est eux les vrais démocrates. Ça, c'est une leçon. Mais on est coincé avec cette puissance américaine, et y compris sur l'action militaire, où ils nous font une sorte de pression en permanence contre la Chine. Et la Chine qui nous fait une pression parce que nos entreprises ont besoin du marché chinois. Et donc, quand on est franco-allemand... Vous savez, dans son début de quinquennat, Macron, il avait reçu Xi Jinping avec Merkel et avec Juncker.
Là, Scholz, il est tout seul,
c'est pour ça que je
Xi Jinping.
Voilà, c'est pour ça que je dis que tout ça ne va pas dans la bonne direction. Ouais. Et je pense qu'il faut revenir aux orientations qui étaient celles du président quand il a reçu Xi Jinping à l'Elysée en présence de Merkel.
On va revenir plus en détail, évidemment, sur les stratégies commerciales, notamment de l'Europe et des entreprises. Un mot sur ces mid-term américaines. Donc, on a appris que Joe Biden doit parler ce soir à 21h GMT. Donc, il va répondre à des questions, ce qui est un exercice peu usuel chez le président américain. ça veut dire combien il est soulagé. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore, on ne sait pas encore si le Sénat a basculé ou pas, parce qu'il y a de nouveau une élection qui doit se faire, la Chambre des représentants. Tout ça est encore très flou. Mais c'est, en tous les cas, Trump, il a un peu raté son retour. Il n'y a pas de vague anti-Biden.
Il n'y a pas de vague anti-Biden. C'est une victoire de Biden, donc c'est une défaite de Trump.
Ouais, bah...
C'est une victoire de Biden. Je ne sais pas encore les résultats complets, mais par rapport à ce qu'a été les midterms, ce qu'ont été les midterms avec Obama ou avec Clinton, les deux présidents démocrates précédents, Biden fait une performance. Alors, on le prenait pour quelqu'un d'assez médiocre, on faisait un portrait de lui particulièrement fade. Au total, il fait mieux qu'Obama, il fait mieux que Clinton, et il a des Américains qui se sont mobilisés pour aller voter. Et ça, c'est assez remarquable. Dans la démocratie, les leaders doivent être capables de mobiliser pour que les gens aillent voter. Une démocratie sans électeurs, c'est une démocratie qui va vraiment dans la mauvaise direction. Et donc là, les États-Unis nous donnent une bonne leçon, et je trouve que, finalement, on voit quand même une certaine modération. Le Trumpisme en prend un coup, quand même. Donc ça, les Républicains restent très à droite, mais on voit quand même que ces candidats un peu provocateurs ne sont pas les mieux placés. On voit que des questions comme l'avortement ont pesé dans cette élection de manière très forte. Donc au total, je dirais que l'Amérique va plutôt, elle, dans la bonne direction, c'est-à-dire vers une des positions plus centrales pour rassembler le peuple.
Oui, alors elle va dans la bonne direction, en tous les cas sur le plan politique, vous avez raison, Jean-Pierre Raffarin. En mettant, si on regarde sur le plan économique, je ne sais pas si vous partagez, en tous les cas, l'avertissement assez sévère en début de semaine de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, qui a dit mais attention aux subventions américaines, ils ne jouent pas le jeu. Et on le voit bien avec des entreprises, vous en rencontrez beaucoup je crois à travers votre fondation Prospective et Innovation, les entreprises, il y a la, notamment avec le coût de l'énergie, et la tentation de l'Amérique, elle existe, elle est très forte, hein, parce que c'est des subventions mais qui sont quatre fois supérieures parfois à celles qu'on peut donner en France.
Les Américains ne jouent pas le jeu, on le sait, ils défendent leurs intérêts et que leurs intérêts, et finalement, avec cette guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est eux qui tirent les avantages, donc nous sommes tous des perdants, sauf eux d'une certaine manière. Alors, en plus, ils ont mis cette extraterritorialité des lois qui fait qu'ils donnent des amendes aux entreprises françaises qui ne se comportent pas comme ils souhaitent, c'est quelque chose de très important. Moi, je pense que pour les entreprises, aujourd'hui, la situation est très difficile. Être une entreprise à l'aise dans son temps, une EAT, à l'aise dans le temps, c'est quelque chose de très difficile. Moi, je voudrais dire, avec les discussions que j'ai avec les uns et les autres, il y a trois orientations qui me paraissent être plus importantes que tout le reste. La première des orientations, c'est qu'il faut se rapprocher de la société civile. On voit que la société politique, partout dans le monde, est assez discréditée, que la société politique n'est plus tout à fait la source de la légitimité. Il y a une contestation. On voit qu'il y a les médias aussi, on voit tout ça. La légitimité, c'est la société civile. Il faut être proche des préoccupations de la société civile. On parle de l'impact, on parle d'un certain nombre de sujets comme ça, qui sont très importants. Un, la société civile. Deux...
Oui, mais ça se traduit comment, pardonnez-moi, Jean-Pierre
Par être proche des préoccupations. Par exemple...
L'entreprise citoyenne
L'entreprise... Mais par exemple...
Surtout qu'en ce moment, ils ont quoi faire.
Il y a un consensus important, ce qui est une deuxième orientation très importante, qu'est-ce que j'appelle, moi, la planétisation.
Ouais.
Quand j'ai commencé la politique...
C'est terminé, la planétisation.
Non, bien sûr que non, c'est un consensus aujourd'hui. Mm. La mondialisation, c'était du temps du consensus de Washington, c'était la performance économique. Aujourd'hui, la mondialisation est devenue la planétisation. Les jeunes à San Francisco, les jeunes à Bangalore, les jeunes à Shanghai, ils veulent la planétisation. Mm. Pour sauver l'humanité, il faut sauver la planète. Il y a un consensus mondial là, et donc il faut travailler cette question-là parce qu'elle est très importante, elle dépasse les compétitions. Mm. Il y a la société civile, il y a ses préoccupations, dont la planétisation, et puis il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce que je crois que c'est très important, qui est pour les entreprises, qui est la sobriété. Non seulement la sobriété énergétique, mais au fond, on n'est plus au temps où le produit était star, où il fallait communiquer. Tout ça. Avec les réseaux sociaux, nous sommes dans une société de polémique. Donc il faut pouvoir être relativement discret. Il faut être attentif à ne pas hyper...
C'est presque un prêche que vous êtes en train de faire au chef d'entreprise, Jean-Pierre Raffarin.
Je regarde ça avec passion. J'ai fait ma carrière beaucoup dans les entreprises aussi. Je regarde ça avec passion. Mais je trouve qu'aujourd'hui, y compris sur le plan politique, la surexposition. Je vois bien Emmanuel Macron, il est surexposé aujourd'hui. Regardez, il faut avoir une attitude plus réservée. Il prend trop de coups, mais parce qu'il est trop exposé, il n'y a pas suffisamment d'exposition Parlement, il n'a pas suffisamment de leaders, son parti ne le protège pas, et en s'exposant, on a des difficultés.
Jean-Pierre Raffarin, là pour le coup, sans quand même une petite pointe de déception par rapport à Emmanuel Macron, que vous avez beaucoup soutenu, aidé, vous avez dit, il ne faut pas l'empêcher empêcher d'agir. Là, on vous sent un tout petit peu plus lointain, on va dire ça comme ça.
Je suis, je reste, c'était mon point de départ, constructif. Qui est à la hauteur de Macron aujourd'hui sur la classe politique?
Mais enfin,
je veux bien. Mon ami Luc Ferry me dit, mais pourquoi il est encore Macron? Mais si Luc Ferry était président de la République, je souviendrai Luc. Mais je vois bien aujourd'hui qui peut être président à la place de Macron.
Ok, non, mais
c'est
mais
pas évident.
Oui, j'ai envie de dire
donc, aujourd'hui, ça
sur
sert
le fond,
à rien dans la période.
Sur le fond,
de crise,
reconnaissez qu'il y a rien.
Je reconnais qu'il y a des difficultés, mais ce n'est pas dans cette situation internationale. Il y a du flou. Mais c'est pour ça qu'il faut participer au débat. C'est pour ça la politique, c'est ça. Moi, je suis fidèle et loyal, mais je suis constructif. Et je dis aujourd'hui, il faut s'occuper des entreprises, il faut les aider à se protéger dans un monde qui est en train de bouger, qui bouge extrêmement vite. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'expérience et à certaines formes d'âge que je vois les choses aller extraordinairement rapidement.
Ouais.
Et ça, il faut aider les uns et les autres à faire face. Je pense que sur le plan politique aujourd'hui, il n'y a personne qui arrive vraiment, si c'était à la cheville ou au genou, peut-être, de Macron. Et donc, il faut aider Macron. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait...
Ah bah ça va être simple en 2027. Pour vous savoir qui vous allez soutenir parce que
de toute façon il
ça
est pas
pourra
là.
Pas être lui hein
bah,
sera, bah
voilà,
oui
voilà.
Il pourra pas être lui
je vais faire une petite parenthèse là-dessus je trouve qu'on a fait une grosse bêtise d'élire un président de 48 ans à 58% à 45 ans pardon à 58% et de lui interdire de se représenter
il s'est représenté mais c'est représenté quoi oui
mais si vous voulez quand vous êtes un homme politique vous avez besoin d'élection un étudiant sans examen un homme politique sans élection ça aujourd'hui être à 45 ans président de la République et plus avoir d'élection devant soi ça doit créer un trouble
et donc il y a un trouble
Et peut-être que vous le trouvez.
Oui, et peut-être que vous le trouvez aussi. Tiens, juste, je sais bien que vous avez quitté les LR, mais vous soutenez qui, là? Retailleau, qui est de votre coin, entre guillemets. Enfin, il est de Vendée, je sais bien que vous...
Oui, la Vendée a toujours été le Bas-Poitou, donc...
Voilà, ça y est, c'est reparti, mais c'est bref. Retailleau, Ciotti, Touché, qu'est-ce que... qui vous soutenez?
J'ai quitté...
Non, mais je sais bien.
Je suis parti parce que j'étais en désaccord avec la ligne politique, qui était de ne pas faire de différence entre Macron et le Front National.
Ouais.
Donc moi, j'ai fait une grande différence entre Macron et le Rassemblement National. Donc j'ai quitté ce parti. Donc j'estime Retailleau. Connais Retailleau,
Retailleau.
C'est quelqu'un de sérieux, de compétent, et donc j'ai pour lui de l'espine et du respect. Là, je ne suis plus dans son parti, donc je ne vais pas me prononcer, mais la personne est pour moi une personne tout à fait respectable.
Encore un instant sur la politique, la minute politique, si j'ose dire. Pour mettre fin à ce trouble que suscite chez vous Emmanuel Macron, la dissolution, ça pourrait être une solution
ou pas,
peut-être pour mettre un peu pression sur les Républicains.
Mon trouble n'est pas lié à Macron, il est lié à cette crise terrible qui nous agresse de partout. On a l'inflation, on a l'environnement, on a l'Ukraine, on a la Chine, on a les États-Unis. Donc quand on regarde un peu autour de nous, puis ce franco-allemand qui est le cœur de notre destin. Tout ça ne peut pas rendre plus. Je serais insincère et je serais un tricheur si je vous disais autre chose que la situation aujourd'hui est extraordinairement troublante et que le père de famille, le grand-père que je suis, est très inquiet pour ses petits-enfants dans quel système on va vivre. Quand vous regardez les différents paramètres, objectivement, et j'ai toujours eu une admiration formidable pour René Char qui, en 1932, voit la situation de 39. Donc on se dit toujours, quand on a un peu de conscience politique, est-ce qu'on n'est pas en train de voir des choses que les autres ne voient pas? Donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la situation devient extrêmement dangereuse.
Vous voyez 39 ?
Nerveuse. Non, je ne le vois pas comme ça. Mais en tout cas, il y a suffisamment de menaces pour qu'on soit mobilisé à fond et que le combat de l'Ukraine aujourd'hui, ce soit le combat du cessez-le-feu, d'abord et avant tout.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur la Chine. Vous connaissez très bien la Chine. Vous avez fait le pont. Parfois, on vous l'a un peu reproché. Le pont entre la Chine et l'Union européenne, la France. Est-ce que quand même, vous êtes un petit peu troublé là aussi par le couronnement de Xi Jinping lors du dernier congrès du Parti communiste?
Si vous voulez, la Chine, comme nous tous, la Chine est sous de très fortes pressions. Le dirigeant chinois est sous de très fortes pressions. Il a son opinion publique, elle-même, qui est inquiet par l'inflation, qui est inquiet par la crise immobilière. Donc, ils ont des crises internes. Il y a un ralentissement économique en Chine. Donc, il y a une pression de l'opinion publique. Il y a une pression avec les Américains. La guerre, la tension avec les États-Unis sur Taïwan est extraordinairement forte. Et donc, la Chine est sous pression. Et ils ont pris une ligne à ce congrès, qui naturellement ne peut pas être notre ligne, qui est le retour du marxisme. Retour à Karl Marx, retour tout ça. Et dans le retour du marxiste, la valeur du marxiste numéro un qui est retenue, c'est la dictature du parti. Donc c'est le parti partout, et c'est une logique naturellement qui fait que nous sommes en désaccord de système. C'est pour ça que l'Europe parle de rivalité systémique, c'est-à-dire qu'on a deux systèmes qui ne sont pas compatibles.
Mais est-ce que c'est acceptable? Est-ce que vous dites pour l'instant, il faut se tenir un peu à l'écart de la Chine?
Il faut politiquement affirmer nos différences et essayer de faire évoluer la Chine dans la bonne direction. Mais il ne faut pas mettre nos entreprises non plus en difficulté. Aujourd'hui, 1,4 milliard de consommateurs, la Chine joue un rôle majeur et elle jouera un rôle majeur. Chirac me disait toujours, fais attention Jean-Pierre, tu sais, ils sont aussi intelligents que nous, ils travaillent deux fois plus, ils sont 1,4 milliard. Donc on les a devant nous pour très longtemps. Donc ils sont là et il ne faut pas penser que c'est nous, surtout si on n'est pas dans une Europe soudée, que ce sont nous qui allons donner des leçons à la Chine. On l'a fait suffisamment dans le passé, ça n'a pas servi à grand chose. Donc moi, j'ai un feu tricolore. Je suis rouge en politique. Ça ne passe pas, on a deux systèmes différents. Je suis orange en business, parce qu'on a des choses à gagner, le feu est orange, et on a des choses qui sont positives, mais il faut avoir équilibré nos échanges. Et puis le vert, c'est la gouvernance mondiale, parce qu'il n'y a pas de paix dans le monde sans la Chine. Ouais. On n'a pas d'équilibre dans le monde sans la Chine. Donc on est bien obligé de discuter avec eux. Vous savez, la paix, ça se fait par la discussion avec l'ennemi. C'est la même chose.
Vladimir Poutine a dit qu'il ne viendrait pas au G20. Hein.
Mais ça, c'est être. Je comprends qu'il est actuellement en pleine période de guerre, mais au fond, le fond de l'affaire, c'est que moi, je suis à la tête d'une ONG sur la paix, et je vois bien que la capacité de ceux qui ont le plus agi dans l'histoire pour la paix, c'est ceux qui sont allés parler avec l'ennemi. Ouais. Quand Mandela va parler avec de Klerk, il va vers celui, toute cette équipe, on ne parle pas avec eux, et il va parler et il fait la paix. Donc, les relations internationales, c'est forcément le dialogue. C'est le dialogue ou la paix, le monde. C'est le dialogue et la paix, ou alors à ce moment-là, c'est la guerre.
Là aussi, c'est encore décidément, on est dans un drôle d'univers, drôle de monde, drôle de planète, de planétisation. J'aime bien votre expression, Jean-Pierre Raffarin. Juste toute dernière question. Sur le Qatar, cette Coupe du Monde, pour le moins contestée, c'est quoi votre position ?
Ma position, c'est qu'il faut laisser le foot faire le foot, qu'il ne faut pas s'occuper de tout quand même, et que la politique, il faut laisser les sociétés civiles, les organisations internationales faire des choses. Alors on peut apprécier, c'est vrai que du point de vue de la COP et de nos exigences climatiques, cet air conditionné dans les stades, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, d'une certaine manière, c'est assez inacceptable, je le comprends bien, mais moi je ne suis pas pour que systématiquement le politique vienne être le tribunal permanent de l'actualité. La société civile doit s'exprimer dans une société libre.
Tiens, un de vos successeurs, Jean Castex, a été sa nomination à la tête de la RATP vient d'être validée par le Sénat. Est-ce que c'est un job que vous auriez pu accepter, Jean-Pierre Raffarin, en tant qu'ancien Premier ministre ?
Bon, écoutez, c'est un job très important. Je pense que Castex a les qualités pour se faire.
Ouais.
Moi, j'aime la liberté, j'aime la politique, j'aime être libre. Donc, me trouver dans des systèmes qui enferment trop, c'est pas ma nature, surtout à mon âge, où j'ai envie de dire ce que je pense et que j'ai pas de
contraintes. Et c'est ce que vous avez fait
sauf
ici même.
Sauf l'amour de mon pays.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir été avec nous, l'ancien Premier ministre, donc, pour cette grande interview. Dans un instant, vous retrouvez Frédéric Simotel pour Tech & Co. Et surtout, si vous voulez écouter, réécouter et réécouter Jean-Pierre Raffarin, c'est le podcast sur BFM TV. À demain.
Good evening business. La grande interview.